marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Pierre Goldman, l'insaisissable.
Finalement, en 1976, les jurés d'Amiens acquittent Pierre Goldman du double meurtre des pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir.
Alors bien sûr, il n'avait pas été un saint, il avait lui-même assumé ses responsabilités à l'égard des actes de déviance qu'il avait pu réellement commettre, mais il était devenu quelqu'un d'inclassable, certes, mais resté un militant et un militant extrêmement généreux.
Maître Kirchmann, la réputation du nom de Goldman avait été acquise par le père de Pierre dans la Résistance. La célébrité vint par le fils rebelle, Pierre, qui n'en voulait pas, avant qu'elle ne consacre le demi-frère, Jean-Jacques, dans le consensus cette fois. Pierre se voulait proche des guérillas d'Amérique latine. Il avait 26 ans en 1970. Vaincus, nous errions dans les débris de nos concepts. Cette année-là, il est accusé d'un double meurtre, boulevard Richard Lenoir, qu'il ne reconnut jamais. Pourquoi tuer la femme qui tenait la pharmacie Delaunay et sa préparatrice pour la caisse? Condamné à la perpétuité en 1974, Pierre devient en prison un étudiant hors pair et un écrivain. Ses souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France marquent une génération. La dimension juive de sa personnalité apparaît à partir de ce moment et elle joue un rôle dans son second procès qu'évoquait Maître Kirchmann à Amiens en 76. Acquitté du double meurtre, Pierre achève rapidement la peine qu'il avait encourue pour ses hold-up. Libre, il vit avec Christiane, son épouse guadeloupéenne. Son vrai pays natal est de l'autre côté de l'Atlantique. La nuit, il joue de la tumba jusqu'à l'heure où sortent les journaux et le jour, il travaille à Libération, au temps moderne. Mais a-t-il jamais travaillé? Il est insaisissable. En 1977, il choisit de publier L'ordinaire mésaventure d'Archibald de Rapoport, un roman picaresque, une farce philosophico-érotique. Le personnage est comme lui un juif, habité de l'esprit de vengeance, et philosophe, mais c'est aussi un tueur. Il exécute 1, 2, 3, 4 policiers, 1, 2 magistrats, jusqu'à un grand avocat qui n'est pas sans ressembler au sien. Les soutiens historiques que Goldman a toujours eu dans l'intelligentsia apprécient modérément Philippe Boucher dans Le Monde. Il s'en faut de peu qu'il ne se vante d'avoir commis ce pourquoi il a été acquitté. Ce deuxième livre de Goldman, longtemps laissé sous le boisseau, est aujourd'hui réédité. C'est le dernier de l'auteur que trois hommes tuent de 9 balles sur le trottoir en septembre 1979. Trois hommes pour assassiner les trois vies de Goldman, révolutionnaire sans organisation mais non sans honneur, juif, artiste.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Philippe Gimplewicz, bonjour.
Bonjour Jean.
Artisan avec Christiane et préfacier de cette édition chez Séguier des Ordinaires Mésaventures d'Archibald Rapoport. Marc Kravets, qui a été longtemps proche de Pierre Goldman, disait « Comme lui, je pense que la valeur d'un homme se mesure à la fidélité des amitiés autour de lui. »
Amitié, vous dites ? Mais oui, Pierre était un ami. Je l'ai connu après sa sortie de prison, après 1976. Et on s'est vu, on s'est fréquenté jusqu'à l'assassinat de septembre 1979.
On parlera de son rapport à la musique, de ce monde sans limite que vous partagiez l'un et l'autre. Mais le contact s'est fait autour de l'édition d'un livre lié au monde de l'Est et lié au monde juif.
Oui, alors la raison pour laquelle... Moi, j'étais tout jeune. Je suis beaucoup plus jeune que lui.
Non, c'est pas une conjuration de vieillard.
Non, absolument pas. Donc, la raison pour laquelle j'ai voulu faire sa connaissance et je l'ai harcelé de toutes les manières possibles, c'était pour qu'il écrive cette préface pour un livre qu'on était 4 ou 5 à avoir retravaillé, qui s'appelait « Histoire véridique de Moshe ». Ouvrier juif et communiste au temps de Staline. Cette préface, il ne l'a jamais écrite, donc il y a eu un certain nombre de rendez-vous où il venait pas, etc. Il a fini par écrire un magnifique article dans Libération sur le livre et l'accrochage s'est fait autour de la musique quand il a appris que j'étais musicien, là, quelque chose s'est passé. Et là, c'était du vrai, c'était du solide à ce moment-là.
Mais parlons d'abord de vos origines communes polonaises. Vous savez, ce pays qui est décrit dans Archibald comme celui des rois de Pologne et de l'eau de vie de pommes de terre, le pays des rebelles du 19e siècle et le pays des ghettos. Arva Alberstein.
Sag nit kein mal, als du gehst dem letzten Weg. Himmeln bleiene, verstellen blaue Teg. Kommen wird durch unser ausgebänkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sennen do. Kommen wird durch unser ausgebänkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sennen do. Von grünem Palmenland bis Land von weißem Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen's, es a Spritz von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen's, es a Spritz von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut.
Une chanson écrite en 1943 par un jeune poète juif, Hersch Glick, dans le ghetto de Vilna, au moment où il apprend l'insurrection du ghetto de Varsovie. Les paroles sont évidemment très très émouvantes, très fortes. Pierre avait le premier vers à côté de la photographie d'un grand résistant, Marcel Reimann, dans sa cellule. Ça dit « Ne dis jamais ». Que tu vas ton dernier chemin. Et ne dis jamais que tu vas ton dernier chemin. Et la chanson continue. Cette chanson n'a pas été écrite avec des caractères d'imprimerie, mais avec notre sang. Et le refrain continue en disant nous sommes là et nous serons toujours là.
Et le père et la mère d'origine polonaise de Pierre Goldman ont été importants dans la résistance.
Oui, alors l'un et l'autre ont des responsabilités dans la résistance militaire au sein des FTP-MOI, donc l'organisation de résistance du parti communiste. Ils se rencontrent l'un et l'autre dans ce cadre-là, à Lyon. Après, la mère ira à Grenoble et la raison profonde de la naissance de Pierre, c'est la mère, Jeannine, qui disait « Dans cet environnement épouvantable, je tiens à avoir un enfant. Je veux donner naissance à un être humain. »
Le père restera en France, se remariera avec Ruth, et la mère Jeannine, elle fera le choix de retourner en tant que communiste dans la Pologne, démocratie populaire, d'où elle ne reviendra à grand-peine que l'année de l'assassinat de son fils. Vous avez connu Jeannine, une de vos filles, la redoutait beaucoup.
Oui, mais elle la redoutait pas, elle l'appelait... Bon, c'était une femme évidemment extraordinaire, d'une très très grande générosité.
Elle l'appelait comment ?
Elle l'appelait Mamie Mitraillette. Elle l'appelait Mamie Mitraillette parce que les derniers mois de l'occupation, au sein d'un détachement FTP, elle était entrée dans un commissariat avec des collaborateurs, la milice, enfin je ne sais quoi, et pour prendre possession des lieux.
Elle aussi était tranchante.
Elle était très tranchante, elle était très véhémente, et quand elle était quelque part, elle prenait effectivement possession des lieux. Mais encore une fois, c'est des gens qui vous mettaient en contact avec un monde qui aujourd'hui n'existe plus, c'est vrai, le monde des militants, le monde des gens qui étaient capables de s'oublier, qui était capable de lutter pour une cause qui les dépassait.
Et capable de se taire pour une raison d'honneur, de l'honneur révolutionnaire. Mais le vrai pays natal que vous avez partagé aussi, avec Pierre Goldman en jouant de la musique avec lui, c'est l'Amérique latine, c'est Cuba, le Venezuela.
Oui, enfin moi je jouais, c'était pas ma musique, hein, mais effectivement il venait jouer de la musique chez moi avec des musiciens dominicains, vénézuéliens. Oui, son monde, c'était le monde qu'il a connu en 65. En 1965, à ce moment-là, il milite à l'Union des étudiants communistes. Une fête est organisée et des Cubains arrive. Et il a la révélation de cette musique. Il en a, il en éprouve une allégresse profonde.
Il va rejoindre Cuba et à Cuba, il va trouver des Vénézuéliens, s'intéresser à eux et chercher à aider la guérilla vénézuélienne.
Oui, il faut qu'il parte n'importe comment. Le monde lui apparaît trop étroit. Désespérément étroit. Donc, Régis Debray lui présente, le met en contact avec deux grandes personnalités de la guérilla vénézuélienne, Osvaldo Barreto et puis et un autre qui s'appelle Elias. Et il va les rejoindre.
68, il va être à Paris, mais occupé des Vénézuéliens. Et puis, après l'échec des guérillas, le reflux déjà des idées révolutionnaires, vaincus, nous errions dans les débris de nos concepts. On va dire qu'il était désarçonné. Et c'est à ce moment-là qu'il va se livrer à des hold-up. Il en avouera 3. Il aurait pu en faire un chez Lacan, ça aurait été assez drôle. Il voulait cambrioler Lacan.
Oui, ben ça fait partie de l'ambivalence, quoi. Je crois même qu'il fait un repérage rue de Lille chez Lacan. Il le croise dans l'escalier. Il se demande s'il passe à l'acte et il est impressionné par la stature. L'homme aux cheveux gris et puis ce que représentait Lacan dans le monde intellectuel d'alors et il ne le fait pas.
Alors il n'a pas fait, c'est ce qu'il assurera tout au long de sa vie, le cambriolage et le meurtre de la pharmacienne Madame Delaunay du boulevard Richard Lenoir, de sa préparatrice. Il sera aussi accusé d'avoir blessé un policier qui observait la scène de très près. Pour ces motifs, il sera condamné à perpétuité à Paris en 1970, même si les faits ne sont pas clairement...
74,
parce que l'assassinat ou le meurtre tels qu'ils ont été invoqués par l'accusation, c'est 70. Il sera condamné à perpétuité en 1974. L'avocat général, dont il reconnaît la valeur, ne se fonde que sur son intime conviction. Et ses défenseurs, dont il ne reconnaîtra pas la valeur, sont mal armés ou maladroits. Très vite se constitue un comité de soutien. A, Aragon. V, Philippe Agnès Varda et Pierre Vidal-Naquet. Et puis, combien d'autres? Il se méfiera d'ailleurs toujours un peu des comités de solidarité, parce que c'est un militant qui n'aime pas être un porte-manteau sur lequel les gens portent leurs fantasmes.
Oui, ça c'est une phrase de Régis Debray qui écrit un livre en hommage à Pierre Goldman, Les rendez-vous manqués. Ils ont vécu la même expérience l'un et l'autre, c'est-à-dire d'incarner une cause et de revenir et d'être l'objet de projection des uns et des autres. Et Pierre envisage très rapidement une défense qui va être une défense individuelle à partir d'une connaissance très très précise de son dossier. Et les véhémences d'un comité de soutien, les déclarations à l'emporte-pièce, le fait d'en faire un militant victime de la justice bourgeoise, trop peu pour lui. Trop peu pour lui. Et par ailleurs, il éprouve une certaine Cuba, le Venezuela et les Antilles l'ont marqué. Il a ce qu'il appelle des compagnons d'une même misère. Il se sent beaucoup plus proche des exclus, des parias, des Guadeloupéens un peu déviants que de cette haute société parisienne.
Et puis, prisonnier, il va l'être pendant 6 ans. Il ne veut pas être traité comme le prisonnier intellectuel, philosophe. Il veut qu'on parle de lui comme des autres prisonniers. Et c'est des autres prisonniers aussi qu'il traite dans ce livre qui a un écho extraordinaire. Nous sommes en 1975, les souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France que présente à la télévision Claude Mauriac.
Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, paru au seuil de Pierre Goldman.
C'est un grand écrivain qui se révèle. Un grand écrivain dont il se trouve qu'il est en prison, dont il se trouve, et il est le premier à le dire, qu'il n'est pas un petit saint, mais qu'il n'est pas un assassin, bien qu'il ait été condamné pour cela. Il avoue avoir participé à d'autres hold-up. Dans son procès, il a renoncé, il n'a pas voulu parler de lui. Là, il nous parle de lui. Il nous raconte tout son itinéraire, qui est absolument passionnant. Et alors, il y a un ton de vérité qui se sent. Vous comprenez, ça ne nous appartient pas de revenir sur la chose jugée. Moi, j'espère de toute mon âme qu'il va y avoir une révision de ce procès. Parce que
c'est un Dreyfus de droit commun.
Ce qui frappe dans cet homme, c'est qu'il est en prise directe avec l'absolu. C'est une espèce de calcination de l'être. Et puis, alors, il faut ajouter ceci, c'est que non seulement c'est un écrivain, mais c'est un philosophe. Il a, en prison, fait ses études de philosophie, qu'il a poussé très loin. C'est donc quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Et moi, j'espère de tout cœur qu'après avoir lu ce livre, les juges vont revenir et qu'on va refaire un nouveau procès.
Le nom de Dreyfus est prononcé par le journaliste. L'aspect juif commence à devenir très présent à partir de ce livre. Est-ce que je suis un bon juif, va-t-il se demander souvent?
Oui, il se pose la question et il aurait pu répondre « Je suis peut-être pas un bon juif, mais je suis un vrai juif ». Donc en tout cas, il incarne quelque chose d'assez rare dans le monde juif. C'est la figure, là encore une fois, c'est la figure du révolté, la figure du blasphémateur, la figure de celui qui s'adresse à Dieu tout en le niant. Donc une figure extrêmement marginale, mais en même temps, en tout cas à mon sens, extrêmement sympathique. Vous me permettrez d'ajouter une petite chose à propos de ce livre qui effectivement recueille un assentiment général, beaucoup de lecteurs et qui bouleverse encore beaucoup de gens. Goldman a envoyé à Régis Debray, ils étaient amis, un manuscrit qui était un diplôme de philosophie autour de Che Guevara. Et Debray lui dit, vous avez, je ne sais pas si je vous vois ou si je tutoie, vous écrivez des lettres à Christiane qui doivent être des lettres magnifiques, vous êtes un écrivain, écrivez un livre, non pas en tant que philosophe, mais en tant qu'être sensible, de la manière dont vous pouvez écrire vos lettres à Suzanne. Et d'une certaine manière...
À Christiane.
Et la matrice de Souvenirs obscurs vient de là. C'est effectivement, c'est un livre en trois parties. La première, un curriculum vitae, là, effectivement, qui emporte l'adhésion. La deuxième est un examen critique extrêmement pointilleux du dossier.
Le dossier va obtenir une révision. À l'époque, il n'y avait pas de possibilité d'appel en cour d'assises, mais il y a une cassation pour vice de forme. Le deuxième procès, 76, c'est à Amiens. Je ne sais pas si la ville est extrêmement favorable à Pierre Goldman, mais la salle est remplie de ses soutiens. Et l'avocat, maintenant, c'est Maître Kiejman. Sa plaidoirie est mémorable. Il l'évoque plus tard à France Culture dans La Voix Nue.
La Cour de cassation a cassé ce procès, il a été rejugé à Amiens. Je suis intervenu à Amiens pour la première fois et effectivement, Goldman a été, je dirais pas innocenté. C'est méconnaître ce qu'est un procès pénal. C'est à l'accusation de prouver que vous êtes coupable. Et ce que j'ai démontré, c'est que l'accusation était fragile et faible. Alors, par exemple, il avait été identifié par certaines personnes. Or, j'avais amené avec moi une photo qui était dans le dossier, dans des dimensions minuscules, et que j'avais fait agrandir à dimension d'homme. Goldman y apparaissait tel qu'il était au moment de cette identification. Terrassé par la fatigue, dans des vêtements fripés, mal rasés. Et j'ai demandé que soient cités, je les ai cités d'ailleurs, tous les policiers qui avaient appartenu à ce qu'on appelle le tapissage, les preuves d'identification. Goldman apparaissait, lorsque j'ai planté cette photo parmi eux, comme tellement différent qu'il était évident que n'importe qui invité à reconnaître le coupable ne pouvait le reconnaître qu'en lui et pas dans les autres.
Voilà une idée qu'on va retrouver dans la tête de Goldman constamment, Philippe Gimplewitz. Il est fabriqué, quand il est mal rasé pour le tapissage, mais constamment. Il est fabriqué pour être poursuivi.
Oui, il dira « Cette accusation est conforme à mon destin ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, là aussi, qu'il apparente à Jean Genet. Il est assigné à une condition de criminel avant même de l'être. Et il choisit, en tout cas par les braquages, de l'être. À propos de... Je reviens sur Amiens avec une anecdote Il y a un des jurés. Donc l'ensemble des jurés est assez favorable. Il s'est passé du temps. Il y a une campagne de presse. Et là, on est en Picardie. Et il y a un brave juré picard qui s'adresse à un des témoins. Un des témoins est une des personnes qui a été agressée par Pierre Goldman dans un de ses trois braquages. Et il lui parle tout à fait naïvement et lui dit. Vous êtes juif, monsieur Dreyfus. Là, on est dans Rabbi Jacob. Hein. C'est,
Dreyfus avait été agressé
en 69
dans ses bureaux, ou 70, 69, au moment des premiers hold-up.
Oui, voilà. Donc, on est. Vous êtes juif, monsieur Dreyfus. Et l'autre lui répond je m'appelle Dreyfus. Et le jury continue et lui dit est-ce que Goldman s'est excusé auprès de vous d'agresser un autre juif? Alors le Dreyfus lui répond bah, écoutez, moi je ne savais pas qu'il était juif. Et là Goldman intervient et dit je ne pouvais pas lui dire excusez-moi de commettre cette agression, je suis juif et je m'appelle Goldman. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce que par derrière, il y a une opposition entre le juif d'origine polonaise, Goldman, et Dreyfus, vieille souche française qui est là depuis longtemps et le juré fait naïvement l'amalgame entre l'un et l'autre. Vous devez être solidaire en fait, hein, vous êtes en tant que juif l'un et l'autre, vous devez
mais
être.
Mais lui, il est déraciné.
Et d'ailleurs,
il assimile souvent la négritude, sa femme antillaise dont on va reparler et la judaïté. Alors justement, il se marie.
Oui, excusez-moi. Et Kiechmann aussi va entrer dans sa dernière plaidoirie qui est extraordinaire avec cette phrase on ne guérit jamais de son enfance. Il écrit j'appartiens aussi à cette communauté de juifs polonais et je vais vous dire une chose, derrière le vernis de l'arrogance, derrière le vernis de la sûreté, on ne guérit jamais de son enfance, on ne guérit jamais de ses rêves d'adolescence, mais pas non plus de ses rêves héroïques.
Il vit libre, 13e arrondissement, Christiane, mariée. Et il publie un livre en 77 qui déconcerte. C'est l'histoire d'un juif philosophe, d'un juif qui veut se venger, d'un juif qui tue des policiers, 1, 2, 3, 4, des magistrats, et parmi les plus apparemment honorables, son avocat, enfin, ou un grand avocat qui pourrait être son avocat. Et alors, pourquoi est-ce qu'il écrit ce livre que son éditeur, l'éditeur des Souvenirs Obscurs, Claude Durand, refuse, que Maître Kiechmann ne comprend pas? Il faut un éditeur très marqué à droite, Bernard de Fallois, pour accepter de le publier.
Un homme libre,
De Fallois. Il ne voulait pas être coupable, mais il ne veut pas être disculpé?
Non, enfin, comment vous dire? Avant tout, c'est un roman. Il le pose comme un roman. Il l'a commencé en prison. On a montré quelques pages à une assistante d'avocat qui est absolument effarouchée, en disant mais c'est pas possible, vous allez être jugé, on peut pas écrire ça. Il l'écrit en toute liberté. C'est-à-dire que il va un peu à la manière de Garcia Marquez, écrire la geste épique d'un criminel qui pourrait lui ressembler. Là encore une fois, c'est très culotté, qui a beaucoup de points communs avec lui et dont il est dont il s'éloigne. Enfin, qui est un pur personnage de roman. Il fait de sa vie une œuvre, mais ce n'est en aucun cas, évidemment, une confession cryptée.
Mais, hypothèse cravette, ça veut dire j'écris et quand j'écris que je tue des policiers, ça veut dire que si je tuais, c'est des policiers que j'aurais tués. Ou des magistrats, ou des avocats.
Bah, il
et pas deux pharmaciennes.
Oui, pas deux pharmaciennes. Non, c'est vrai aussi. Non, c'est-à-dire qu'il a des comptes à régler avec l'institution judiciaire. 6 ans en quartier de haute surveillance. Il s'amuse en même temps. Hein. C'est une farce macabre, comme vous le dites. C'est une farce aussi érotique et philosophique. Il joue un peu, encore une fois, à la manière de Jean Genet. Il joue à la. Il s'amuse de lui-même, ce qui, pour moi, encore une fois, est la marque d'une. D'une liberté, d'un éloignement à
entre
travers.
Entre nous soit dit, c'est quand même, comme le disent certains de ses amis, un emmerdeur. Il est reçu dans les salons de l'intelligentsia parisienne. Il fait des sourires à tout le monde quand il vient. Et puis il fait des commentaires en créole à Christiane pour détailler les petitesses de tous les gens qu'il reçoit.
Oui, enfin, un emmerdeur. Moi, je dirais pas que c'est. Moi, j'ai pas connu un emmerdeur. Hein. Moi, j'ai connu un ami. J'ai connu un ami souriant. J'ai connu un ami. Intelligent, il faisait Sartre éclater de rire quand il parlait. Il avait aussi une immense faculté de séduction. Il était un peu comme sa mère. Quand il était quelque part, il était là et il choisissait effectivement ses cibles. Alors maintenant, le créole avec Christiane, effectivement, ça faisait partie de leur code de complicité. Un créole très populaire, le créole des bas quartiers de la Havane, et ça leur permettait, là encore, voyez, enfin, c'est ambivalent, je dirais, être reçu aux meilleures tables, c'est, après tout, c'est pas désagréable, mais en même temps, on garde son quant à soi, et on dit ce que l'on pense de ces gens qui ont peur qu'ils repartent de là en ayant volé des petites cuillères en argent.
La cible, c'est lui. Il est abattu à la sortie de son domicile dans le 13e, alors qu'il allait rejoindre à la maternité Christiane qui se préparait à accoucher. L'assassinat sera revendiqué par un groupe jamais identifié, honneur de la police, et l'enterrement rassemblera quelques 12 000 personnes, dont Sartre, Beauvoir et René Sorel, qui était à l'époque critique dramatique de la revue Les Temps Modernes.
Alors on est arrivé jusqu'à l'endroit où était la tombe de Goldman, et puis nous sommes restés dans une foule énorme, énorme. C'était très émouvant, c'était très beau. Et puis c'était une fois de plus un juif qu'on assassinait, un de plus. Il était mort, je crois, le jour même où son enfant venait de naître, la jeune maman étant antillaise. Il y avait des Antillais qui étaient réunis là avec leurs instruments, dont je ne sais pas le nom, et qui ont chanté des chants qu'on chante comme ça au moment d'un enterrement aux Antilles. Et très loin, comme ça, comme à bouche fermée, très très loin, en contrepoint au fond du cimetière, il y a eu une internationale en sourdine. En face de moi, il y avait un de ces ridicules tombeaux néo-gothiques, comme il y en a en quantité, les tombeaux des belles dynasties bourgeoises au Père Lachaise. Et il y a un très jeune garçon, très agile, qui a grimpé jusqu'en haut. Il a enlevé une écharpe rouge, du plus beau rouge, et il en a cravaté la croix qui dominait la petite chapelle. Ça m'a enchanté.
Votre réédition avec votre préface des ordinaires mésaventures d'Archibald de Rapoport chez Séguier, Philippe Gaplevic, comporte une réflexion sur la révolution. Le 1er mai 2019, les perspectives ne sont plus du tout celles qui étaient partagées par Goldman et ses camarades. Même le mot camarade.
Et même le mot camarade, bien sûr, oui. La révolution, dans les années 70, elle était à portée de main. Elle était là. On pouvait se disputer sur son imminence et sur les moyens d'y arriver. Mais en tout cas, cette idée d'une libération de l'être et une libération de l'être qui réunirait l'humanité entière et pas des segments de cette humanité. Pas des morceaux, pas des corporations, pas des communautés, était très très présente encore. Ce n'est pas l'effet du hasard que le quotidien né à cette époque-là s'appelait Libération. L'idée de l'émancipation, l'idée que cette émancipation allait être le fruit d'une lutte commune, partagée entre les uns et les autres, sans distinction d'origine, sans distinction, etc., etc., était très, 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 très présente à ce moment-là.
Nous étions avant la segmentation à l'infini. Et l'archipel français. Merci à vous, Philippe Gaplevic. Cette émission était préparée par Michel Bézikian à la réalisation. Stéphane Ronxin dans l'équipe. Frédéric Martin, Franck Olivard, Adèle Caïto et Ilinka Negulesco.